Aymeric Caron est notre invité ce matin. Alors, vous le connaissez pour son rôle d'intervieweur il y a quelques années dans l'émission On n'est pas couché sur France 2, journaliste, chroniqueur et écrivain. Aymeric Caron est végétarien depuis une vingtaine d'années. Il défend la cause animale. Son dernier livre s'intitule Antispéciste, réconcilier l'humain, l'animal, la nature. Bonjour Aymeric Caron.
Bonjour Mehdi.
Avant de vous entendre, votre venue a lieu dans un contexte assez particulier pour la filière viande ici en Belgique, puisque c'est la quinzaine du bœuf, figurez-vous. Deux semaines de promotion de la viande bovine made in Wallonie, semaine où les artisans bouchers défendent les produits de leur terroir, comme Ronnie De Potter, boucher à Louvière, je vous propose d'écouter.
Je sais qu'il y a des a priori sur la blanc-bleue, disant que c'est bien maigre et ça fait des gros muscles, ça ne donne pas de goût. Mais quand c'est bien sélectionné, on arrive à trouver quelque chose d'assez extra. Il a son caractère à lui qui est très bien. Dans notre clientèle, on a plusieurs types de clients. Il y en a qui sont très réguliers, mais on en a aussi régulièrement qui mangent très peu de viande. Mais quand ils se présentent chez nous, ils aiment bien un bon morceau de viande, même avec du gras, et il n'y a pas de souci, ils se font plaisir. Mais il y a toujours les carnivores, principalement dans la région du Hainaut. On est fort carnivores, il y a les barbecues, les côtes à l'os, etc. On mange beaucoup de viande quand même dans notre région. Et je pense que ce n'est pas prêt de partir, parce que les amateurs de viande resteront des amateurs de viande.
Voilà, on est des carnivores, paraît-il, en province de Hainaut. Aymeric Caron, en pleine quinzaine du bœuf, c'est un peu osé de venir ici, en résumant votre combat, que manger de la viande, c'est meurtrier.
Oui, enfin, le livre antispéciste parle de notre rapport à la consommation de viande, c'est vrai, mais pas seulement. Il parle de notre regard sur les animaux non humains, puisque moi je fais la distinction entre les humains et les animaux non humains, puisque les humains sont des animaux eux-mêmes. Et il s'interroge, ce livre, sur les devoirs que nous avons à l'égard de ces animaux non humains. Alors effectivement, je dis que on ne devrait plus aujourd'hui les manger parce qu'ils ont tous les animaux non humains sensibles ont le même droit de vivre que nous. Et le fait de manger de la viande n'est absolument pas une nécessité pour la santé. Donc c'est l'une des questions que pose le livre, mais pas seulement, parce que ce livre s'interroge également sur le fait de mettre des animaux dans des zoos, de les utiliser dans des cirques, de les utiliser pour des expérimentations animales, d'avoir des élevages de fourrure. Donc c'est un livre qui s'interroge vraiment sur la manière que nous aurions aujourd'hui de renouveler nos relations à l'égard des animaux.
Vous écrivez par exemple que vous refusez de maltraiter un animal car vous pourriez être lui, et vous placez toute votre réflexion sur le niveau philosophique. Oui. Sur la place de l'homme sur cette planète.
Oui, c'est important. Je pense qu'on doit s'interroger sur les conséquences de nos actions, donc sur la raison qui nous pousse à commettre tel ou tel acte. Et le fait de nous comporter d'une manière ou d'une autre à l'égard d'un être vivant sensible est quelque chose qui nous définit fondamentalement. Si on exerce une barbarie à l'égard d'un être sensible, eh bien, on dit quelque chose de l'humain que nous sommes ou de l'inhumain que nous sommes à ce moment-là. Et je pense que nous entrons dans une ère, le 21e siècle, où la question de notre rapport aux animaux sensibles est une question qui va définir la nouvelle humanité. Ça, j'en suis absolument persuadé. On voit bien qu'on a commencé à s'interroger depuis déjà quelques décennies, quelques siècles, sur les devoirs que nous avons à l'égard de certains animaux. On le voit bien, par exemple, avec nos animaux de compagnie. On voit bien qu'on a décidé qu'il y avait des animaux qui méritaient d'être bien traités, qu'on n'avait pas le droit de les violenter, qu'on n'avait pas le droit de les tuer. Et cette réflexion, elle est juste en train d'émerger, parce qu'il y a encore tous ces animaux, l'extrême majorité que l'on élève pour les mauvaises raisons, pour les tuer, pour les manger. Et ça, je pense que tout ça est en train d'évoluer et qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'avoir lieu. Moi, je vois bien qu'en France, en tout cas, il y a une évolution très, très nette, très rapide depuis 1, 2 ou 3 ans à cet égard. Et je pense que notre rapport aux animaux non humains est l'une des questions essentielles qui va définir la nouvelle humanité dans les décennies qui viennent.
Alors vous plaidez pour que les animaux sensibles aient des droits, au moins 4.
Oui, je parle de 4 droits fondamentaux, le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être emprisonné, le droit de ne pas être torturé et le droit de ne pas être vendu, de ne pas être un objet de commerce. Ces droits fondamentaux qu'on pourrait octroyer sans aucun problème à tous les animaux non humains sensibles. Alors bien évidemment, ça aurait des conséquences qu'on imagine, puisque ça veut dire cesser toute forme d'exploitation animale. En réalité, comme je le disais, on a déjà commencé à octroyer des droits à certains animaux. Les animaux de compagnie, par exemple, nos animaux de compagnie ont certains de ces droits fondamentaux, puisque si, par exemple, vous donnez un coup à votre chien ou à votre chat, si vous, enfin un coup, un gros coup en tout cas, si vous le torturez par exemple, si vous le tuez, vous pouvez être emprisonné.
Poursuivi en justice, oui.
Mais bien évidemment. En revanche, il y a encore beaucoup d'animaux qui n'ont quasiment aucun droit. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de cette schizophrénie qui fait qu'un même animal peut se retrouver dans différentes catégories de droits, c'est-à-dire selon qu'il est considéré comme un animal familier, comme un animal sauvage, comme un animal nuisible, comme un animal protégé, comme un animal d'élevage, eh ben il va pas du tout avoir les mêmes droits. Et c'est une vraie question philosophique, juridique qui se pose à nous aujourd'hui, un vrai défi. Pourquoi décider de manière complètement arbitraire qu'un animal appartient à telle ou telle catégorie, sachant qu'un même animal peut être dans l'une ou l'autre des catégories, ou être à un moment de sa vie dans une catégorie, puis dans une autre, et ne pas avoir les mêmes droits. Un lapin, par exemple, peut appartenir à 4 catégories différentes, animal sauvage, animal d'élevage, animal de laboratoire, animal de compagnie, à chaque fois, il n'a pas les mêmes droits. Donc, il y a quelque chose ici de complètement illogique qu'on devrait tenter de résoudre.
Alors vous placez le débat sur l'aspect philosophique, mais sur l'aspect économique, qu'est-ce que vous dites aux bouchers qu'on a entendu il y a quelques instants, à toute cette filière, tous ces gens qui vivent des animaux, qui vivent de l'élevage, de la production de viande?
Je dis que la viande est une aberration économique à plusieurs titres. D'abord parce que, si je prends l'exemple de la France, qui est un sujet que je connais mieux bien évidemment que la Belgique, mais les situations sont à peu près similaires j'imagine, si ce n'est que la France était pour le coup un énorme pays d'élevage, plus encore que la Belgique, on se rend compte que les éleveurs vivent essentiellement des subventions. Donc on a des subventions européennes,
de la politique agricole commune, oui.
Bien évidemment, et également des préférences, on va dire, de préférences fiscales octroyées par le gouvernement national. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne fonctionne pas dans la mesure où c'est censé être un domaine privé et on se rend compte que c'est un domaine qui ne peut survivre que parce qu'il est sous perfusion de fonds publics. On se rend bien compte également que les éleveurs aujourd'hui sont dans une situation absolument catastrophique. On voit bien que les éleveurs de porcs, les éleveurs de bovins n'arrivent plus à vivre aujourd'hui de leur production. Leur viande est absolument sous-payée parce qu'ils sont les victimes aujourd'hui de groupes agroalimentaires industriels, de la grande distribution. Ce sont devenus aujourd'hui des employés d'une industrie. Ce ne sont plus des paysans. Et on voit bien d'ailleurs que c'est dans le milieu de l'élevage qu'il y a le plus grand taux de suicide dans notre pays, en France par exemple. Donc on voit qu'il faut tout réformer, tout repenser. Et je dis aux éleveurs que les antispécistes, dont je fais partie, ceux qui défendent les droits des animaux, ne font pas la guerre aux éleveurs. Ils disent simplement, je pense que l'élevage aujourd'hui est une cause perdue et qu'il faut penser, au contraire, à accompagner les éleveurs vers une transition.
Il nous reste 30 secondes, vous appelez à une révolution complète, ouais. Ou bien des inflexions. Est-ce que des inflexions, ce serait déjà pas mal?
Une inflexion, c'est un début. Mais bien évidemment, c'est à une révolution complète que j'appelle, qui nous amènerait à revoir considérablement, de fond en comble, toutes les relations que nous avons avec les animaux, avec une règle fondamentale qui est de cesser toute forme d'exploitation animale.
Émeric Caron, merci beaucoup d'être venu ce matin dans Matin
Première.
Je rappelle
votre
le titre de votre ouvrage antispéciste, Réconcilier l'humain, l'animal et la nature aux éditions Don Quichotte.